en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre invitation. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel et vous tous. Je suis dans votre Assemblée avec crainte et tremblement, mais aussi sous le regard d'un cardinal. Sa présence ne me surprend pas ici, mais voilà, je sens son regard sévère peser sur moi. Le Moyen-Orient, il suffit d'abord d'y porter un regard de géographe. Je vois qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'histoire. J'espère que la géographie ne va pas disparaître trop de l'enseignement dans nos collèges. Si l'on regarde le Moyen-Orient, on voit bien que cette région est assez unique puisqu'elle a des liens étroits avec l'Afrique. Pour les chrétiens orientaux, l'Égypte, l'Éthiopie sont bien en Afrique. Que ce Moyen-Orient par lui-même est en Asie, mais qu'il est également ouvert sur l'Europe à travers l'unité de la Méditerranée. Bref, si j'étais Dieu, si j'avais l'idée étrange de vouloir m'incarner quelque part, c'est sans doute là que je le ferais, puisque de là, on peut vraiment diffuser sur 3 continents différents. Et on retrouve évidemment l'origine de notre civilisation à travers l'Égypte et la Mésopotamie. Historiquement, le premier grand personnage de la région n'est pas issu du Moyen-Orient, mais bien de Grèce, Alexandre le Grand, sans doute assez mauvais élève d'Aristote. Après la conquête de la Grèce, fera la conquête de l'Asie mineure, de l'Égypte. Il se fera reconnaître comme pharaon, c'est l'avantage des polythéismes. On peut ainsi glaner quelques dieux ici ou là, selon le hasard des conquêtes. Après avoir été reconnu comme pharaon, il va se retourner en faisant la conquête de la Perse, ce qui n'est tout de même pas rien. Il va aller jusqu'à l'Indus, où ses soldats vont commencer à récriminer, désirant rentrer chez eux. On ne fait pas comme ça des récriminations à Alexandre. Il va faire assassiner les premiers, mais il va bien écouter les suivants. Il va faire demi-tour et il va mourir à Babylone à 33 ans. Si j'évoque cette figure, c'est que Alexandre le Grand va commencer finalement une tradition de gens venus du Nord, faisant la conquête du Sud, les armes à la main, une conquête tout de même assez violente, et une fois la conquête faite, va vouloir être dans l'amitié des peuples conquis. Les noces de Suse ont encore marqué les imaginations, puisque à travers elles, Alexandre voulait marier des milliers de soldats grecs avec des milliers de jeunes filles de Perse pour essayer de créer un monde nouveau, un peuple nouveau issu de ses conquêtes. C'est une tradition qu'il va ouvrir. Il y aura beaucoup de peuples du Nord qui vont arriver vers le sud-est de la Méditerranée, les Grecs donc, puis bientôt les Romains, les Byzantins, les Croisés, les Mongols. Je ne suis pas certain que les Mongols aient voulu faire ami, mais enfin, ils sont tout de même venus. Les Turcs et la puissance dominante et occupante dans cette région arabo-musulmane a bien été les Turcs pendant des siècles, jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais encore les Européens et plus proche de nous, les Américains. Lorsque les États-Unis ont envahi avec la coalition qu'ils avaient formée l'Irak, le président des États-Unis a dit « Nous sommes les nouveaux croisés ». À cause de cette expression, des centaines de chrétiens ont été assassinés, considérés comme les alliés des Américains, puisqu'ils étaient chrétiens, donc les alliés des croisés. Voilà une tradition donc ouverte par Alexandre le Grand. Bien sûr, je suis là pour parler des chrétiens après la Pentecôte, qui sont obligés de se disperser rapidement depuis Jérusalem, à la fois pour les besoins de la mission et pour la crainte des persécutions. De Jérusalem, il n'y a pas énormément de directions possibles. On va à Damas, où le futur saint Paul va pour essayer d'enchaîner les chrétiens, de les ramener à Jérusalem pour qu'on les juge. De Damas, on peut aller à Antioche, cette grande ville chrétienne qui sera un centre culturel extrêmement important dans le domaine de la théologie, aussi de la philosophie, un centre d'études aristotéliciennes qui sera bien souvent le symétrique d'Alexandrie. De Damas, on peut également aller à Babylone, puisque les premiers chemins de l'évangélisation vont vers les communautés juives. Et à Babylone, il y a une communauté juive importante, puisque le peuple d'Israël y a été déporté, en est revenu à Jérusalem, mais tous ne sont pas rentrés. Il y a donc des juifs à Babylone. D'ailleurs, il y aura des juifs en Irak jusqu'en 1948. Et cheminant dans les régions du nord de l'Irak, je retrouve encore d'anciennes synagogues, très anciennes synagogues, que je souhaiterais d'ailleurs essayer de restaurer. Mais on peut aller de l'autre côté, vers Alexandrie, cette grande ville donc fondée par Alexandre. Il faut dire qu'il en a fondé plusieurs dizaines qui s'appellent toutes Alexandrie, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Mais à Alexandrie, en Égypte, déjà, la Bible hébraïque avait été traduite 300 ans avant Jésus-Christ en grec. C'est la traduction des Septante. Et évidemment, cela a été fait aux grandes dames des puristes de Jérusalem, car dès qu'on fait une traduction, certains crient à la trahison. D'Alexandrie, nous pouvons aller jusqu'à Cyrène, grande ville romaine avec une grande communauté juive. Simon de Cyrène était sans doute venu de là, faisant son pèlerinage à Jérusalem et réquisitionné par les soldats romains pour porter la croix du Christ. Bref, voici qu'une chrétienté se déploie depuis la Pentecôte, elle s'organise, elle se donne les moyens de la mission, tandis que nous autres Gaulois étions encore avec nos druides dans les arbres à cueillir je ne sais quoi. Cela veut dire que ces chrétientés ne sont pas là parce qu'il y a eu des missionnaires européens. C'est pour cela que nous les appelons les chrétiens d'Orient. Ce sont en quelque sorte non seulement nos frères, mais bien souvent nos pères. Tandis que les chrétientés d'Extrême-Orient, en Corée, au Vietnam, au Japon, en Chine, dans bien d'autres pays, existent parce qu'il y a eu des missionnaires européens d'Europe occidentale qui sont venus y implanter le christianisme. Et donc l'Église latine d'Occident engendre l'Église latine. C'est pour cela qu'on parle d'Amérique latine ou on parle de l'Église latine pour l'Afrique ou l'Extrême-Orient. Ici, nous sommes devant des chrétientés qui ne doivent pas leur existence à l'influence de l'Église latine et qui sont donc parfois des chrétientés qui ont échappé, ce serait méchant, mais qui se sont développées en dehors de la culture gréco-latine et qui ont donc gardé des éléments de culture sémitique extrêmement anciens, de culture araméenne et sans doute très proches de ce qu'ont été les liturgies primitives immédiatement après la première génération apostolique. Parler des chrétiens d'Orient, c'est donc aussi parler de cette partie orientale de l'Empire romain. Donc vous voyez que nous sommes devant un concept à la fois géographique et historique, mais également théologique. Ce sont des chrétientés qui se sont séparées de ce qu'on appelle l'Église indivise, qui est jusqu'au XIe siècle formée et par Rome et par Constantinople. C'est le concile d'Éphèse en 431 qui a vu d'abord la séparation avec l'Église assyro-chaldéenne, c'est-à-dire l'Église de Perse, qui existe encore aujourd'hui, notamment un petit peu en Iran, mais surtout en Irak. Et ils sont vivants, ils sont dynamiques. Cette église de Perse, donc, tandis que l'Empire de Perse était en conflit avec l'Empire de Byzance, va se déployer vers la Chine. Ce sont les routes commerciales que la Perse entretient avec la Chine, soit les routes terrestres qui contournent l'Himalaya par les hauts cols et qui retombent sur la Chine. Et me promenant sur ces routes, j'ai constaté que les petites mosquées sur la route pour les voyageurs étaient en fait des anciennes églises chaldéennes qui gardent la trace de cette culture. Mais elle n'est purement archéologique. En revanche, par les routes maritimes, on quitte la Perse pour arriver vers l'Inde, vers le sud-ouest de l'Inde, l'état du Kerala, où là, deux communautés chrétiennes de culture syro-orientale vont être implantées, l'église syro-malabar et l'église syro-malankar. Il y a donc dans ces deux églises une branche catholique, chacune a à sa tête un cardinal, et ces deux cardinaux nous feront l'amitié et l'honneur de venir visiter la France dans quelques jours. Après le concile d'Éphèse en 431, c'est le concile de Chalcédoine en 451 qui a été l'occasion d'un certain nombre de divisions. l'Église d'Arménie, le royaume d'Arménie, le premier royaume converti entièrement au christianisme, le roi, les princes, le peuple, je ne sais pas si on a tellement demandé son avis au peuple, mais peut-être, après tout, je ne sais pas. Bref, la fille aînée de l'Église, n'en déplaise aux Gaulois que nous pouvons être, c'est l'Arménie. Voilà un royaume donc totalement chrétien, mais aussi se sépare de l'Église indivise les Coptes, les Coptes et les Éthiopiens. Très vite, l'Église copte a eu la main sur l'Église éthiopienne. Et puis également l'Église syriaque, qui est l'Église qui était présente dans la grande Syrie de l'époque, qui recouvre notre Syrie d'aujourd'hui, mais également la Jordanie, la Palestine, le Liban. Voici donc ces églises orientales séparées de ce que j'appelle l'Église indivise, c'est-à-dire jusqu'au XIe siècle, l'Église en communion entre Rome et Constantinople. Ces deux sièges vont se séparer, comme vous le savez, en 1054, et donc il y aura les Grecs et les Latins de l'autre côté. Il y aura également une église qui restera toujours unie au siège de Rome, ce sera l'église maronite, issue des monastères dans les montagnes entre le Liban et la Syrie d'aujourd'hui. Au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, cette fois-ci sous le coup d'influents de missionnaires européens, ces églises, lorsqu'elles ont rompu avec Rome, vont, pour une partie d'elles-mêmes et en proportion variable selon les cas, retrouver la communion avec Rome. Les deux conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, dont il est vrai que les orientaux ont une mémoire assez floue, parfois il faut qu'on leur explique pourquoi ils ont voulu se séparer de nous, posaient la question christologique, c'est-à-dire de savoir dans le Christ quels sont les rapports entre Dieu et l'homme. Vous voyez combien c'est, pour des croyants, une vraie question. Certains vont aller dans le sens d'une grande séparation. Dieu est au ciel, l'homme est sur terre, il ne peut y avoir de communication. D'autres vont aller dans une sorte de mélange humano-divin. La formule retenue par ces deux conciles, ce sera le Christ, une personne en deux natures. La nature divine n'altère pas la nature humaine, et inversement, la nature humaine n'altère pas la nature divine. Cela peut sembler, certes, c'est le cas de le dire, à des querelles byzantines, mais en réalité, c'est quand même un problème très profond dans toute religion, de savoir comment comprendre les rapports entre Dieu et l'homme. Et lorsque l'islam surgira, ce sera aussi une vision de cette question-là. Y a-t-il communication possible entre Dieu et l'homme ? Y a-t-il cohabitation possible entre Dieu et l'homme dans une même personne ? La question est évidemment immense. Lorsque l'islam est arrivé, il y a eu évidemment une conquête par la force, mais en même temps, de la part de ces populations du sud et de l'est de la Méditerranée, qui étaient des populations sémitiques, le sentiment que ces Arabes qui venaient étaient finalement plus proches que l'empereur grec de Constantinople, qui était tout de même assez lointain, qui écrasait les populations sémitiques de levée pour l'armée et les conflits de cet empereur de Constantinople contre les tribus qui venaient d'Asie centrale, mais aussi contre l'ennemi héréditaire qui était la Perse, et ma foi, qui écrasait aussi les populations d'impôts. Quand on fait de l'histoire, il faudrait faire davantage d'histoire fiscale, parfois cela explique bien des choses. Voilà. Donc finalement, les chrétiens ont vu des cousins, des gens qui savaient ce qu'était le désert, ce qu'était un chameau, ce qu'était un palmier, finalement des gens qui savent qu'on se déchausse quand on entre dans un lieu sacré, car avant d'être une habitude musulmane, c'est une habitude sémitique. Il y a encore peu de temps, les chrétiens se déchaussaient avant de rentrer dans une église. Donc cette cohabitation a connu des phases difficiles de conflits, de persécutions, mais parfois aussi des phases de cohabitation, des phases de collaboration. Lorsque les califes omeyyades se sont installés à Damas, ce sont souvent les ministres chrétiens qui ont aidé à l'administration pour deux raisons. D'abord parce qu'il est impensable pour un ministre chrétien de prendre la place du calife, et comme vous le savez, tout danger pour le calife, c'est de savoir qui veut être calife à la place du calife, mais aussi parce que ces chrétiens avaient une meilleure connaissance des besoins de l'administration d'un immense empire. Il y a eu aussi des périodes de franche persécution, plus généralement des périodes de discrimination. Parfois, les chrétiens étaient obligés à une tenue vestimentaire particulière, avec l'interdiction de monter à cheval, l'interdiction de porter les armes, l'obligation de payer des impôts, l'interdiction d'accès à un certain nombre de fonctions administratives ou politiques. Nous sommes à présent devant une situation évidemment tout à fait particulière. Il y aurait beaucoup à dire sur cette histoire, mais le temps qui m'est imparti m'oblige à aller plus vite à des questions plus contemporaines. Nous voyons donc ce qu'on a appelé le printemps arabe. Je me permets de rappeler que ce printemps arabe a commencé d'abord, il y a eu un synode des évêques du Moyen-Orient à Rome, qui a été une rencontre de communion. Les évêques orientaux se méfiaient un petit peu de ce que la curie romaine allait les manipuler. Puis finalement, ils se sont sentis respectés. Il y a eu un très beau texte post-synodal, comme nous l'appelons, par le pape Benoît XVI. C'est le dernier grand texte de Benoît XVI qu'il a tenu à remettre de la main à la main en Orient aux évêques orientaux. C'était donc aussi le dernier grand voyage du pape Benoît XVI au Liban. Très vite après ce Moyen-Orient, il y a eu deux faits de violence. L'attentat horrible à la cathédrale syriaque de Bagdad, en pleine messe, où deux jeunes prêtres de moins de 30 ans ont été assassinés. Le curé a failli être assassiné. On l'a cru mort, ce qui lui a sauvé la vie. Il est revenu en France. Il se reconstitue actuellement en France et il a été logé dans une des paroisses parisiennes. Peu après, il y a eu l'attentat dans la cathédrale orthodoxe d'Alexandrie, puis donc ce printemps arabe commençait en Tunisie, comme vous le savez, lorsque un marchand s'est immolé par le feu parce qu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Il était donc clair que cet homme était épuisé. Les autorités tunisiennes ont traité cela comme un fait divers. C'est cela qui a mis le peuple dans la rue, car le peuple a dit « mais nous n'en pouvons plus, nous aussi, c'est pas du tout un fait divers, c'est un fait de société, notre économie est en panne ». Car vis-à-vis des pouvoirs autoritaires, militaires qui étaient en place de la Tunisie à l'Irak, finalement la classe moyenne pouvait se déployer. La croissance économique faisait que finalement elle était assez satisfaite de son sort. Certes, la démocratie n'était pas exemplaire, mais finalement le commerce marchait, la classe moyenne pouvait développer sa maison, les jeunes faisaient de meilleures études que leurs parents, ce qui est toujours un petit peu dangereux. Mais enfin bref, la classe moyenne était finalement assez satisfaite de son sort. La crise économique l'a stoppée dans cet élan. Elle s'est retournée vers les milieux populaires, contre les milieux dirigeants, et nous savons que c'est cela qui est explosif. Nous sommes donc devant une situation où il y a eu le renversement de pouvoir militaire. Pouvoir militaire, ça a un bon côté, l'ordre règne, ça a un moins bon côté, c'est qu'il n'y a pas de monde de milieu politique. Ce qui fait que lorsqu'on renverse un pouvoir militaire, il n'y a plus personne pour le remplacer. Et donc il a fallu trouver quelques moyens de remplacement, et cela a été le cas pour les milieux islamistes, notamment les frères musulmans, qui représentaient la seule force organisée capable de prendre la place des pouvoirs militaires. Lorsque ces islamistes ont pris le pouvoir, notamment en Tunisie et en Égypte, le peuple musulman en profondeur a compris que ce n'était pas le projet qui leur convenait, que ces islamistes avaient le rêve d'un grand califat de l'Atlantique à l'Inde, considérant que les pays étaient le fruit des décisions occidentales qui avaient dessiné les frontières. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement juste. Même pas les Occidentaux qui ont permis à l'Égypte d'exister en tant que nation. Ce mépris du sentiment national fait que ces populations se seront tournées contre eux pour essayer, tant bien que mal, d'avoir des stabilisations qui demeurent, hélas, encore à envisager en Syrie et en Irak. Nous voyons des constitutions qui sont donc élaborées, notamment en Tunisie. La constitution tunisienne est sans doute, l'actuelle constitution en Tunisie est sans doute une constitution inespérée. Pourtant, je ne dirais pas comme notre président de la République, c'est une constitution exemplaire. En effet, cette constitution stipule que les nouvelles générations doivent être éduquées selon la foi musulmane. Voilà. Encore une fois, c'était peut-être la moins mauvaise possible, c'est tout de même pas encore tout à fait un exemple quand on est un peu habité par une vision de laïcité. Dans cette même perspective, d'ailleurs, je suis obligé de constater que nous avons parfois une certaine tiédeur devant une affirmation islamiste de la société, de la Constitution. Les déclarations islamiques des droits de l'homme faites par l'organisation islamique sont tout de même pleines de questions, mais après tout, c'est le rôle de cette organisation d'affirmer des droits islamiques comme cela a été pour la déclaration de Dakar en 1983 ou du Caire en 1991. Je suis tout de même plus en colère de constater qu'en 1980 à l'UNESCO, le 19 septembre, il y a eu une déclaration islamique des droits de l'homme à l'UNESCO, agence des Nations Unies. Si notre Déclaration universelle des droits de l'homme mérite d'être revue parce qu'elle serait peut-être trop occidentale, je n'ose dire chrétienne, d'inspiration, travaillons-la. Mais comment pouvons-nous accepter qu'à l'UNESCO, temple de la science, de l'éducation et de la culture, il y ait une déclaration islamique des droits de l'homme? On aura à ce moment-là une déclaration hindoue des droits de l'homme et vous verrez qu'il y aura bien un jour une déclaration chrétienne, catholique des droits de l'homme, pourquoi pas? Nous voyons donc qu'il y a parfois de notre part une certaine tiédeur. Nous évoquons souvent la question de la persécution. Je suis pas un défenseur systématique de ce vocabulaire. Les chrétiens d'Orient souffrent souvent de discrimination. La discrimination, ce n'est pas la persécution, même si quelque part un excès de discrimination peut s'apparenter à la persécution. La discrimination de nos frères d'Orient est souvent une discrimination d'ordre administratif, d'ordre de voisinage, mais toute minorité est vite accusée d'un conflit de voisinage, d'ordre judiciaire, dans un conflit entre un musulman et un chrétien, souvent le musulman aura la plus belle partie, discrimination professionnelle, discrimination économique. Ces discriminations, évidemment, ne doivent pas durer et ne sont inacceptables. À côté des discriminations, il y a des actes de violence. J'ai évoqué la cathédrale syriaque de Bagdad et la cathédrale copte d'Alexandrie, mais il y a également des kidnappings, des assassinats, mais encore une fois, des actes de violence ponctuels ne sont pas exactement une persécution. Pour qu'il y ait persécution, il faut qu'il y ait un travail systématique. En Égypte, aujourd'hui, 10 millions de chrétiens sont allés à la messe dimanche dernier, ils iront sans doute à la messe dimanche prochain, on n'a pas entendu dire qu'ils étaient mis en prison ou qu'ils étaient systématiquement tirés à la Kalachnikov. Donc réservons le vocabulaire de la persécution lorsque vraiment il y a des cas de persécution. Ce cas s'est notamment présenté lorsque les frères musulmans ont été chassés du pouvoir. Il y a une sorte de vengeance de frères musulmans ou de salafistes. Dans l'été 2013, plus de 100 lieux de référence chrétienne ont été systématiquement incendiés. Là, c'est ce qu'on appelle une persécution. Mais pour dire la vérité jusqu'au bout, un évêque de Haute-Égypte me disait « Si j'ai encore ma cathédrale, c'est parce que des amis musulmans l'ont entourée toute la nuit pour empêcher qu'elle soit incendiée. » Là aussi, ce sont des faits qu'il faut dire également. Et je pourrais raconter également des situations de maisons religieuses en Alexandrie où, de même manière, des amis musulmans ont encadré l'école religieuse ou le couvent pour empêcher que ces maisons religieuses soient saccagées. Mais là, on a eu effectivement un lieu de persécution. Et évidemment, aujourd'hui, devant le Daesh, nous sommes bien devant une persécution. Il y a de toute évidence dans ce groupe quelque chose de nouveau, non pas par la violence. Hélas, la violence, nous la voyons dans bien des réalités. Nous pourrions en parler en Libye, nous pourrions en appeler en Afrique, mais mon champ d'activité s'est limité au Moyen-Orient. Et nous voyons bien qu'il y a là quelque chose de nouveau par la mise en image de la cruauté pour terroriser une région, pour terroriser une population. Nous sommes parfois un peu surpris de voir des armées régulières se sauver devant l'avance du Daesh, mais parce qu'il a terrorisé la population en mettant lui-même en scène et en image sa propre cruauté. Je ne sais pas si vous avez vu les images, elles sont pénibles. Je comprends qu'on ne les montre pas au grand public, mais il faut aussi les regarder. L'assassinat de ces 21 coptes égyptiens sur la plage décapités sont suivis par un discours du décapiteur en chef avec son couteau ensanglanté face à la mer pour désigner l'Europe et pour dire cette décapitation est un signal vis-à-vis de l'Europe qu'il appelle le règne de la croix, ce qui montre sans doute d'ailleurs qu'il ne connaît pas très très bien l'Europe. Voilà, ce sont bien des crimes contre l'humanité, ce sont également des crimes culturels contre l'humanité. Nous voudrions, et si vous pouvez nous y aider, je vous en serai reconnaissant, hisser cette incrimination au rang de crimes culturels contre l'humanité lorsqu'on voit des œuvres d'art systématiquement brisées, mais aussi des documents anciens qui sont vendus pour un commerce clandestin qui d'ailleurs contribue à financer le Daesh. Il s'agit aussi, à mes yeux, d'un génocide, même si cette terminologie fait débat dans le monde juridique. Je rappelle que la définition d'un génocide vise non seulement une extermination pour des raisons ethniques, mais également pour des raisons religieuses. Elle vise une population en totalité ou une partie de la population. Elle suppose une extermination physique, intentionnelle, systématique, programmée. Je pense que nous nous trouvons bien là, devant la réalité d'un génocide vis-à-vis des yézidis, cela va de soi, mais également vis-à-vis des chrétiens. Cette situation des chrétiens au Moyen-Orient, évidemment, est tout à fait dramatique. Nous sommes devant quelque chose de nouveau depuis des siècles qui met en cause la survie des chrétiens et en Syrie et en Irak. Nous sommes devant, en quelque sorte, si nous prenons un peu de recul, devant le troisième réveil de ces chrétiens arabes. Le premier était contre l'Empire ottoman, c'est l'histoire de Laurence d'Arabie autour de la Première Guerre mondiale. C'est un deuxième réveil qui voulait jouer la carte de l'arabité autour de la Seconde Guerre mondiale. Puis un troisième réveil contre les pouvoirs militaires qui, certes, faisaient régner l'ordre, mais étaient tout de même plus dictatoriaux que nous n'en avions l'impression parfois vu d'Europe. Alors, je vois bien que là où elle a été tentée, la démocratie n'a pas apporté que des bienfaits, notamment pour les chrétiens. L'effondrement des structures de l'État impose aux minorités une fragilisation terrible. Du coup, on dit que les chrétiens étaient parfois les alliés de ces pouvoirs militaires. Ce n'est pas aussi vrai que nous le disons. Mais nous voyons bien que ces essais de démocratie donnent une impression négative. Et mes amis chrétiens d'Orient disent « Voyez où ça nous a conduit, votre démocratie ». J'essaie de leur répondre que, en réalité, ce n'est pas la démocratie qui leur a créé des difficultés, c'est une démocratie insuffisante. La démocratie, comme vous le savez infiniment mieux que moi, ne se résume pas simplement à la prise de pouvoir par un groupe majoritaire. La démocratie suppose aussi des droits reconnus à l'opposition, suppose aussi le droit reconnu à chaque citoyen malgré l'appartenance à des groupes minoritaires. C'est aussi l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est aussi bien sûr la liberté d'expression. Ce qui crée un effondrement dans tel ou tel pays, ce n'est pas la démocratie, mais c'est la démocratie insuffisante, même s'il nous semble nécessaire de permettre à ces orientaux d'inventer un système de démocratie qui leur soit approprié. Et donc la laïcité, nous sommes un peu les porteurs de cette idée de laïcité, doit ne pas être trahie, ici même en France, par un laïcisme parfois proche d'un athéisme d'État, de manière à pouvoir être exportée positivement vers ces pays. Je souhaiterais que nous puissions trouver un projet pour ces peuples. Nous sommes dans une impasse en Syrie. La position occidentale, et en particulier française, et là je dois le dire, devient de plus en plus incompréhensible. Le déploiement du Daesh ces derniers jours, en Irak, en Syrie, dans la frontière irako-syrienne, désormais tout à fait entre les mains du Daesh, en Libye, en Afrique, est incompréhensible. Comment se fait-il qu'une colonne de véhicules militaires ait pu prendre la possession de l'admirable ville de Palmyre, alors qu'il n'y a qu'une seule piste dans un désert aussi plat que cette table? Comment se fait-il qu'il y ait aussi peu d'efficacité dans cette lutte contre le Daesh? Cela nous inquiète. Comment comprendre que des centaines, que des milliers d'Européens aient pu avoir le désir de les rejoindre? Voilà une question, j'en parlais avec le ministre de l'Intérieur, posée au pouvoir public, posée aux responsables musulmans et aux responsables chrétiens. Qu'avons-nous fait ou que n'avons-nous pas fait pour que ces jeunes Français, ces centaines de jeunes de Français aient envie d'aller se battre là-bas? Et comment allons-nous gérer leur retour chez nous? Je rappelle quand même que le porte-parole du Daesh a invité tous les musulmans de France en novembre à faire des meurtres contre les chrétiens. Nous sommes, je vais très vite là-dessus, ça supposerait d'avoir plus de temps, pour ce qui est de l'islam, devant tout de même une question de déploiement, de développement de l'islam, qui est affronté à la modernité rationaliste, mais aussi à la post-modernité individualiste. Nous sommes devant un manque de structure dans l'islam sunnite, avec qui parler ? Qui est-ce qui fait autorité dans l'islam sunnite? Nous sommes devant une théologie de l'inspiration qui est déficiente, ce qui fait que un jour, la mise en cause de l'authenticité du Coran sera un choc terrible pour l'islam, tant est grande la sacralité qui entoure ce livre, et une absence de théologie de l'histoire qui fait que la fidélité aux sources est confondue avec un retour archaïque aux origines. Je souhaiterais bien volontiers que l'Union pour la Méditerranée puisse exister et fonctionner. Et je pense qu'en voyant tous ces réfugiés qui veulent rejoindre le nord de la Méditerranée, nous sommes obligés de constater l'absence d'efficacité de ce projet, qui était un beau projet et qu'il faudrait vraiment, je crois, réactiver. Le Moyen-Orient est un lieu d'œcuménisme entre les différentes communautés chrétiennes, orthodoxes, catholiques et protestantes. C'est un lieu de dialogue interreligieux, car il y a un vrai dialogue avec les musulmans de bonne volonté qui existent, qui sont nombreux, qui veulent avec les chrétiens que leur pays avance vers plus de modernité. Je crois que nous devons comprendre que si la minorité chrétienne sortait du Moyen-Orient, ce serait un drame pour qui? Ce serait un drame pour eux, oui, bien sûr, c'est leur terre d'origine, leur terre ancestrale, mais peut-être après tout serait-il mieux en Australie, en Suède, en Amérique latine, chez nous. Ce serait un drame pour l'Église, oui, bien sûr, parce que c'est la terre de nos origines, mais l'Église n'a pas vocation à être un gardien de musée, nous ne sommes pas les gardiens d'un tombeau vide. L'Église, en principe, est vivante lorsque deux ou trois sont réunis en son nom. Ce serait un drame pour les pays de départ, car derrière les chrétiens, les autres minorités ne pourraient plus rester et seraient obligées de quitter leur pays. Et donc, chaque État du Moyen-Orient se redirait vers son groupe majoritaire. Certains pensent construire la paix de cette manière-là. Et puisque nous sommes non seulement un siècle après le génocide arménien, mais également un siècle après la Première Guerre mondiale, il y a tout de même une question que notre génération doit se poser. La guerre de 14-18, un épisode tragiquement sanglant, même s'il y a eu des actes d'héroïsme que nous ne devrions pas oublier, c'était la Derdéder. Plus jamais ça, c'est trop horrible. Et pourtant, 20 ans après, et lorsqu'on a un peu d'expérience de la vie, 20 ans c'est très court, nous avons recommencé. Nous avons recommencé parce que nous avons cru construire la paix en mettant les Français avec les Français, les Allemands avec les Allemands, les Polonais avec les Polonais, les Autrichiens avec les Autrichiens, les Italiens avec les Italiens. Ce n'est pas ainsi qu'on construit la paix, ainsi on prépare la guerre suivante quelques années plus tard. Il n'y aura pas de paix sans les minorités au Moyen-Orient, c'est bien plutôt en reconnaissant le droit de chaque citoyen dans une vision humaniste qu'on pourra construire la paix par-delà l'appartenance aux minorités. C'est ce à quoi nous essayons de travailler. Et pour conclure, je voudrais rendre hommage à ceux qui permettent à 200 000 élèves du Moyen-Orient de recevoir un enseignement en français. Je ne dis pas d'apprendre le français, de recevoir un enseignement en français, dans toutes les disciplines générales, grâce au dévouement de religieux et de religieuses qui se dévoue à maintenir cet enseignement en français auprès de ses 200 000 élèves. Je suis un peu blessé de penser que ces religieuses n'ont aucun soutien, ni de l'Agence pour le développement du français à l'étranger, ni de la francophonie. Ces religieuses françaises me disaient « Nous insistons pour le français, bien sûr, nous avons des tas de pressions, y compris économiques, parce que là on pourrait leur faire des chèques pour qu'elles passent à l'anglais. Nous tenons à ce que nos élèves apprennent le français, reçoivent cet enseignement en français, car nous constatons que lorsqu'un élève est de culture française, il est de culture infiniment plus universelle que s'il est seulement anglophone. Je voulais conclure sur cela, que je vous laisse à méditer. »
questions. Je donne d'abord la parole à Rémi Brague.
Merci, Madame le Président. Je n'ai pas été le premier à demander la parole,
mais enfin, il me semblait.
Je la garde puisqu'on me la donne. Je voulais attirer l'attention sur un paradoxe épistémologique assez intéressant concernant l'histoire des conquêtes arabes du Moyen-Orient et la manière dont ces conquêtes ont été racontées par les historiens chrétiens. Les chroniqueurs chrétiens présentent très souvent la conquête arabe comme une délivrance. Et vous avez fait allusion de manière tout à fait juste à ce fait. Alors comment expliquer cela ? Eh bien, c'est un feedback tout à fait intéressant du résultat même de ces conquêtes. Comme vous le savez, le sort réservé aux minorités appartenant aux gens du livre dépend de la façon dont ceux-ci sont censés avoir accueilli leurs conquérants. Le sort est plus doux lorsqu'ils les ont accueillis avec des fleurs en leur présentant sur un coussin la clé de la ville que lorsqu'ils ont résisté jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Ils avaient donc, puisque ces chroniques ont été écrites alors que le pouvoir était entre les mains de la classe dirigeante musulmane, ils avaient tout à fait intérêt à raconter rétrospectivement la conquête comme ayant été extraordinairement pacifique. Ce qui fait qu'il faut quand même beaucoup se méfier de la manière dont ceux qui semblaient être les premières victimes ont raconté la façon dont ils sont passés sous le contrôle de ceux qui devaient être ensuite dominants. L'ennui étant que beaucoup d'historiens se laissent prendre, désolé pour les historiens qui sont ici, mais enfin, beaucoup d'historiens se laissent prendre parfois à ces récits et les prennent au pied de la lettre. Merci.
Merci, Alain Besançon.
Merci, Madame le Président. Qu'est-ce qui reste de Nestorien dans l'église à Assyro-Chaldéenne? Qu'est-ce qui reste de monophysite dans les églises arméniennes, coptes, éthiopiennes, syriaques, etc. C'est-à-dire, est-ce que les enjeux dogmatiques qui ont conduit à la séparation restent vivants, et alors qu'il s'est constitué probablement des sentiments nationaux, locaux, je dis national, entre guillemets. Ceci pour insister sur le caractère incicatrisable de toutes ces coupures, parce que malgré les efforts de Rome, en particulier réussis avec les Maronites, mais malgré les efforts, ou quelquefois ratés avec les Éthiopiens, ça ne se cicatrise pas, on n'arrive pas à recoudre ce qui s'est déchiré. Deuxième point, les discriminations. Vous avez admirablement, clairement distingué discrimination et persécution. La discrimination, c'est aussi le statut de Dhimmi. Et là, on ne peut pas le retirer. Hein, c'est constitutif à l'islam. Et troisièmement, on entend dans les discours de Rome, du Saint-Siège, à plusieurs reprises, un désir de réciprocité, que les musulmans donnent des droits aux chrétiens égaux à ceux que reçoivent les chrétiens que reçoivent les musulmans dans les pays chrétiens. Est-ce que ce n'est pas un index de l'ignorance où seraient certains porte-parole du Vatican de l'islam qui ne peut pas admettre la réciprocité avec une religion qui, comme vous le savez, est une religion inférieure, falsifiée, etc., et qui met les dhimmis dans un statut ontologique inférieur à celui des musulmans. Donc la réciprocité, je crois que réclamer la réciprocité est une illusion, d'autant plus, après tout, que jusqu'au concile de Vatican II, il n'y avait pas non plus reconnu en pays chrétien, au pays catholique en tout cas, la liberté religieuse. On n'avait pas le droit d'être musulman en Espagne, en France, en pays catholique. La liberté formelle constatée, reconnue, ça date de Vatican II. Voilà. Merci, monsieur. Merci, madame le président.
Merci, François Dorcival.
Merci, madame le président. Mon père, vraiment, je voudrais tout particulièrement vous remercier de nous avoir remis l'histoire des premiers temps en perspective, parce qu'elle permet de mieux comprendre ce que nous analysons aujourd'hui. J'ai là deux questions. La première, vous êtes directeur de l'œuvre française d'Orient. Est-ce que cela signifie que seuls les Français s'occupent des chrétiens d'Orient ? Est-ce que Rome a d'autres délégations en Europe et dans le monde chargé de se préoccuper des chrétiens d'Orient? Est-ce que cela signifie également que, à travers vous, se reconstituent des liens qui ont été rompus il y a si longtemps, et de quelle manière? Enfin, devant les persécutions et les atrocités dont un certain nombre de ces minorités sont aujourd'hui les victimes, nous sommes évidemment, nous occidentaux, et en particulier nous français, tentés de répondre, comme vous l'avez dit entre deux virgules, qu'il serait peut-être mieux chez nous. Mais ce que vous avez expliqué prouve bien que les racines de leur, non seulement de leur religion, mais de leur communauté, de leur histoire sont si profondes qu'il n'est pas du tout évident que leur transplantation dans l'Église de France, dans les communautés chrétiennes, c'est-à-dire catholiques de France, puisse être réellement réussie. Merci beaucoup.
Merci, Jean-Robert Pitt.
Merci, Madame le Président. Merci, mon père, pour la clarté de votre exposé. J'aimerais voir votre sentiment sur deux observations récentes que, entre autres pour celle que la première dont je vais parler, peut-être certains d'entre vous ont pu voir ce reportage au journal de TF1, je crois, hier, où l'on voyait la communauté arménienne d'Ispahan vivre dans une église et dans un vaste espace, très, très agréablement, danser, chanter, parler très librement, disant qu'elle ne voulait surtout pas quitter l'Iran et qu'elle se trouvait fort bien là. Et un de mes amis iraniens que je viens de voir, pas plus tard que ce matin, me disait, mais je lui racontais ça, il me disait, mais tu sais, il y a aussi des juifs en Iran qui sont très, très bien, qui veulent surtout pas faire leur alia et venir en Israël. Donc, est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce que ça correspond à une situation paradoxale de l'Iran, des Mollahs, que de permettre à ces chrétiens de vivre en liberté, en harmonie. Bon, voilà, je voulais avoir votre sentiment. Puis alors l'autre observation, celle que j'ai faite une nouvelle fois il y a quelques semaines à Jérusalem, où l'on a l'impression, quand on est touriste et qu'on y passe un jour ou deux, que les querelles territoriales au sein du Saint-Sépulcre entre chrétiens sont bien plus graves que celles qui existent entre les communautés juives, musulmanes et chrétiennes au sein de la vieille ville. Certes, il y a Tsahal qui veille un peu et bon, on ne peut pas faire absolument tout ce qu'on veut, mais quand on visite en particulier les commerces touristiques de la vieille ville, on s'aperçoit que de bons arabes musulmans vendent avec un grand sourire des chapelets, des mains de Fatma, des étoiles de David et des chandeliers à sept branches, tout ça ensemble, ce qui témoigne d'une cohabitation souriante qui évidemment, on sait bien ce qui se passe par ailleurs à quelques kilomètres de là, mais tout de même c'est très très surprenant de voir cette cohabitation qui évidemment a besoin d'une petite force militaire pour se maintenir. Et peut-être que si cette force militaire n'était pas là, ce serait une explosion épouvantable.
Merci. Marianne Bastide-Bougère.
Oui, je vous remercie beaucoup de cet exposé tout à fait intéressant. J'aimerais avoir une information supplémentaire. Il existe des groupes religieux extraordinairement différents, variés, à travers des pays très très variés. Est-ce qu'aujourd'hui, devant des menaces communes, il s'est créé des liaisons permanentes entre eux? Est-ce que ces liaisons se font par le clergé qui est en charge, ou au contraire par les notables, parce que en réalité ce sont des groupes de famille et souvent il y a une tradition patriarcale d'adhésion à une religion. Donc j'aimerais savoir où en est cette organisation ou cette liaison qui peut s'établir entre ces différentes églises, et aussi s'il existe des liaisons entre les églises orthodoxes qui ont été protégées traditionnellement par la Russie et qui expliquent en grande partie la position de la Russie sur le conflit en Syrie, et par ailleurs les églises syriaques et araméennes, et enfin celles qui sont d'origine beaucoup plus ancienne.
Merci. Mireille Delmas-Marty.
Merci, Madame le Président. Je voudrais remercier tout particulièrement notre communicant parce que je crois que ce souci qu'il a eu de la précision dans les termes employés est extrêmement important dans la situation actuelle. Vous avez montré qu'il y avait des abus du terme persécution, mais qu'il y avait aussi des moments où il fallait employer le terme. Vous avez parlé du crime contre l'humanité, vous avez parlé des génocides. Donc, c'est extrêmement important, en effet, d'être précis en la matière. Je suis aussi d'accord avec ce que vous avez dit à propos de la démocratie. C'est pas la démocratie qui crée le problème, c'est l'insuffisance de démocratie. Mais le problème, c'est aussi qu'on se trouve à une échelle déjà mondialisée. C'est-à-dire que tous ces événements que vous avez évoqués constituent non pas une guerre ordinaire, mais une sorte de guerre civile mondiale à l'heure actuelle. Et cela nous conduit, je pense, à une déclaration qui vient d'être faite dans le cadre des Nations Unies par un groupe des ministres de l'Intérieur. C'est une déclaration d'il y a 2 jours. On voit très bien qu'on est conduit à considérer la situation comme une guerre mondiale. À l'heure actuelle, je crois que plus de 100 pays participent, sans le vouloir, bien sûr, à l'envoi de ces combattants étrangers qui se trouvent actuellement en Syrie. Le nombre de combattants étrangers en Syrie a augmenté considérablement depuis 1 an, pratiquement. Et à l'heure actuelle, ils viennent de plus de 100 pays, dont le nôtre et beaucoup d'autres. Alors, est-ce que la situation ne pose pas la question suivante ? Devant une guerre civile mondiale, on risque d'aller à l'heure actuelle vers une sorte de police mondiale sans contrôle, car parallèlement, il n'y a pas de justice mondiale efficace. Donc on est dans une sorte de situation juridique dangereuse elle-même. Est-ce que dans ces conditions, et là je rejoins la question de Marianne Bastide-Bruguière, est-ce que dans ces conditions, les différents groupes religieux n'auraient pas un rôle à jouer, à la fois pour alerter et pour proposer peut-être, non pas des solutions, c'est sans doute trop ambitieux, mais déjà la route vers une solution. Merci.
Merci. Georges-Henri Soutou.
Merci beaucoup. Après votre exposé très complet, ce qui ne m'étonne pas, étant donné l'intérêt du bulletin que votre œuvre publie, que je lis très, très régulièrement, je me permettrai, en disant tout de suite que ce n'est peut-être pas la zone du monde sur laquelle je m'exprime avec le plus d'autorité, loin de là. Mais enfin, je voudrais quand même vous poser, mon père, 2 questions. Première, la suivante, il me semble que en France, c'est le français d'Orient, en France, ces questions que vous avez évoquées suscitaient beaucoup plus d'intérêt, de réaction. J'ai pas dit d'intérêt informé, de réaction intelligente, j'ai pas dit ça, mais plus d'empathie, si vous voulez, dans les années 70 ou 80 que maintenant. Il me semble qu'il y a là un changement de tonalité. Je laisse de côté la déploration habituelle, malheur des temps, ça ne m'intéresse pas, mais il me semble que l'opinion française, ou les hommes politiques français, ou les vecteurs de l'opinion française sont moins directement concernés. Alors que, mais toujours, selon ce que je crois observer, de toute façon, nous sommes considérés comme français, peut-être aussi comme occidentaux, de toute façon, comme les que ce soit vrai ou non, hein, mais c'est l'impression reçu là-bas, nous sommes considérés de toute façon comme les défenseurs attitrés des chrétiens d'Orient, comme les toujours prêts à réveiller la croisade le moment venu. Alors, j'aimerais avoir sur cette question, cette différence de tonalité chez nous qui me paraît profonde, votre avis, ou bien je me trompe, parce qu'après tout, il est possible d'être mieux placé que moi. Si mon impression n'est pas totalement fausse, avez-vous à ce sujet, mon père, une explication ? Ma deuxième remarque qui conduirait à une question. Actuellement, alors Daesh, malheureusement, a dépassé le stade où il suffirait d'un ou deux bombardements bien placés pour les réduire, n'est-ce pas ? Ça, nous sommes maintenant devant un problème, j'ai pas dit militaire insoluble, mais un problème militaire majeur, qui amène d'ailleurs les responsables américains et français, puisque les Anglais ont lâché la rampe en matière stratégique, hélas, à se poser toutes sortes de questions. Mais enfin, bon, dans la région, je ne parle pas d'Israël, je parle des acteurs arabo-musulmans ou arabes et musulmans locaux. Il me semble que nous voyons actuellement se dégager, après l'élimination de la Syrie, du point de vue en tout cas géopolitique, nous voyons se dégager trois acteurs entre lesquels en ce moment ça se joue. Daesh, hein, l'Iran et l'Arabie saoudite. Alors, les États-Unis, avec toute la maladresse de l'administration américaine, paraissent quand même essayer d'améliorer le plus possible leur relation avec l'Iran, et donc forcément parier sur le développement positif possible de relations avec l'Iran. Pari qui est évidemment très compliqué, mais que je crois pour ma part raisonnable, je le dis tout de suite, enfin bon. Tandis que la France, tout récemment, me paraît se diriger plutôt vers l'Arabie saoudite. Et ce qui, étant donné que l'Arabie saoudite, si je comprends bien, soutiendrait plutôt Daesh, et soutient bien d'autres mouvements, et dans toute l'Afrique, et chez nous. Je dis à ce sujet d'ailleurs que nos jeunes gens qui partent pour le Moyen-Orient s'inscrire chez Daesh, je n'ai pas pour ma part absolument sûr de souhaiter leur retour rapide. Hein, ça tout de suite. Bon. Alors, est-ce que vous n'avez pas, mon père, l'impression que cette division qui s'esquisse, c'est encore en train de devenir fondamentale au sein même du monde occidental sur la nouvelle constellation de forces dans la région, primo, n'est pas un facteur aggravant et secondo, ne risque pas d'être le dernier clou dans le cercueil des chrétiens d'Orient. Dont j'aimerais pour ma part qu'ils puissent jusqu'au Copte en Égypte, enfin bon, rester chez eux. Car ils sont bien chez eux, vous l'avez admirablement montré depuis le début de l'autre. Je vous remercie.
Merci, monsieur de la Rosière.
Oui, moi-même, j'ai été très, très séduit et très frappé par l'exposé qui nous a été fait. J'ai une question. Face à une politique internationale occidentale, je dirais déboussolée, peu consciente des problèmes religieux de la région et politiquement mal à l'aise à l'idée de défendre des minorités chrétiennes en Orient, face à tout ça, Poutine n'est-il pas le seul vrai défenseur des chrétiens d'Orient ? Merci.
Monsieur Pébrou, merci.
Merci, Madame le Président. J'ai été vraiment très impressionné par votre exposé, qui m'a beaucoup appris, je vous en remercie. Je voulais vous poser des questions simples en prolongement de vos propos. La première est relative à la démocratie. Vous avez dit que ce n'était pas forcément un échec de la démocratie dans ces pays, mais qu'il fallait faire plus de démocratie. Est-ce concevable d'implanter la démocratie en monde musulman ? Puisque tel qu'on a voulu l'implanter, on n'y est pas parvenu. Aller plus loin me paraît a priori compliqué. Alors comment faire ? Ma deuxième question est un peu de même nature sur la laïcité. La Turquie avait essayé depuis fort longtemps d'implanter la laïcité en monde musulman. Je dirais que les dernières années ont permis de constater que cette implantation était fragile. Et donc je voulais vous poser rigoureusement la même question que pour la démocratie. Y a-t-il place pour la laïcité en monde musulman ? Ma troisième question était sur Palmyre. Vous avez évoqué ce désert dans lequel apparemment il aurait été concevable d'arrêter une colonne avec les moyens techniques dont disposait l'Occident. si elle n'a pas été arrêtée, pourquoi, à votre avis? Et puis ma dernière question est relative aux Français dans cette affaire. Vous avez évoqué, et c'était fort émouvant, le travail effectué par les religieux et religieuses pour l'enseignement en français. Vous avez, je crois, précisé qu'il recevait peu d'appui. Établissez-vous un lien entre cette absence d'appui et la qualité de notre enseignement du français en France qui permet à 1500 jeunes Français d'aller s'engager au Moyen-Orient aux côtés de Daesh?
Merci. J'ai oublié personne parce que j'ai l'impression que j'ai mélangé un peu au début. Non, ça va. Bon, je voulais juste vous poser une question très rapide. J'ai pas bien compris pourquoi vous êtes indigné contre les déclarations islamiques à l'UNESCO. Si je ne m'abuse, il y a 4 déclarations islamiques depuis 1981. Il y a aussi une déclaration des droits de l'homme orthodoxe de Kirill. Il y a aussi une déclaration africaine. Est-ce que c'est le caractère particulier de ces déclarations qui sont vouées à l'UNESCO en principe, qui vous choque, ou est-ce que c'est le fait que l'UNESCO soit dans le coup? Si personne d'autre ne veut parler, je vous laisse la parole pour une petite demi-heure pour répondre dans l'ordre que vous choisirez.
Je vous remercie pour toutes ces questions qui, pour une part, m'habitent, dont je n'ai pas nécessairement la réponse. Alors, je vais essayer quand même de me forcer de les rejoindre. La conquête arabe, c'est vrai, a été violente. C'était une conquête. Et en ce sens-là, ce serait abusif d'en faire quelque chose d'idyllique où, finalement, il y aurait une communion, une fusion entre les chrétiens d'Orient sémitique et ces conquérants arabes. Mais c'est vrai que ces conquêtes arabes ont eu lieu à un moment dans l'histoire très particulier, où et l'Empire byzantin et l'Empire de Perse ont tous les deux été affaiblis. Car auparavant, il y en avait un qui était fort et un qui était faible. Et donc la frontière se déplaçait au profit, évidemment, du plus fort. Puis il y avait un retour de force après cela, ça revenait en arrière. Là, c'est un moment où les deux empires étaient affaiblis. Et même s'il y a donc eu une conquête violente, il ne faut pas le nier, il y a eu aussi intégration d'un certain nombre de cadres chrétiens pour aider à l'administration de cet immense empire. Parce que tout de même, les 3 premiers siècles du christianisme ont été des siècles de persécution, pour le coup. Le premier siècle d'islam a été un siècle de conquête. Les 3 premiers siècles ont été des siècles de conquête, ce qui fait qu'en un siècle, ces Arabes musulmans étaient eux aussi au bord de l'Indus, comme Alexandre, mais étaient aussi à Poitiers, comme nous le savons, puisque nous avons fait un peu d'histoire. Voilà. Comment aurait-il pu penser que, devant de telles conquêtes, Dieu n'était pas avec eux, qu'ils n'avaient pas la baraka? Bon, sauf qu'ils se sont retrouvés devant un immense empire, et en particulier durant la dynastie Omeyyade, c'est-à-dire les califes qui étaient à Damas, ils n'auraient pas pu l'administrer, je crois, sans une certaine collaboration de ministres chrétiens. Voilà. Il y a aussi une collaboration, comme vous le savez, sur le plan philosophique, puisque la métaphysique d'Aristote, oubliée en Europe, a été transmise au monde arabe, et d'ailleurs au monde juif également, a fait le tour de la Méditerranée par le sud, et nous a été restituée au XIIIe siècle en Espagne avec saint Thomas d'Aquin. Cette pensée métaphysique d'Aristote étant stoppée dans le monde musulman, parce que dangereuse pour la foi, et grâce à saint Thomas d'Aquin, a fait son introduction dans la culture européenne, et la pensée métaphysique d'Aristote, c'est quand même l'ancêtre des sciences modernes. Ça a figé le monde musulman et ça a permis le déploiement des puissances européennes. Bref, il y a quand même eu, je pense, une vraie collaboration des chrétiens. En ce qui concerne ces églises orientales qui nous désorientent, il y a 6 évêques catholiques à Alep. Comme je dis, vous voyez, c'est une ville martyre depuis très longtemps. Bon, alors évidemment, nous, latins, on arrive à dire, qu'est-ce que c'est, 6 évêques catholiques de la même ville? Mais non, il faut qu'il y en ait qu'un, puis il aura des collaborateurs pour chacun des cultes. Bref, on arrive, nous, latins, ne connaissons rien à rien, on dit, oh là là, il faut mieux organiser un peu d'ordre, un peu de logique, un peu d'efficacité. Oui, mais quand on se met à l'écoute de l'histoire des peuples, on voit bien que les Arméniens qui sont à Alep sont des gens qui ont fui la persécution ottomane, et kurde d'ailleurs, que les Maronites sont là depuis toujours. toujours dans leur montagne, etc., etc. Et chacune de ces églises a une histoire différente, une sensibilité différente, une liturgie différente, une langue différente. Et pourquoi voudrions-nous à tout prix les mettre à l'unité ? Je vois un peu ces différences d'églises comme nos différences des ordres religieux. Eh bien oui, il y a des dominicains, il y a des jésuites, il y a les franciscains, et le prêtre séculier que je sois vit avec cela comme autant de richesses pour notre église. Je ne vais pas tout d'un coup dire « Ah non, c'est trop compliqué, je veux qu'un seul ordre religieux ». Voilà. Donc c'est une diversité qui, je crois, a une richesse. Peu sont capables de parler un peu avec précision des querelles d'origine, des querelles christologiques. Peu de Nestoriens sont capables de vous parler de Nestorius et peu de monophysites sont capables de parler notamment de Jacques qui avait créé cette église monophysite en Syrie. Ce sont plutôt aujourd'hui des différents de culture, de sensibilité. Il y a un peu deux déchirures différentes. Il y a au sein du monde catholique, la diversité de ces églises catholiques, elles sont en communion dans la foi. Puisqu'elles sont catholiques, elles reconnaissent l'autorité du pape. Donc ce sont plutôt des querelles entre cousins ou entre frères. Si tu as un plus gros hôpital que moi, ben c'est pas bien, je vais essayer d'en faire encore plus gros que le tien. On peut penser que c'est un peu puéril, mais c'est l'humanité qui est ainsi faite. L'autre déchirure, c'est celle entre catholiques et orthodoxes. Il y a, pour répondre à cette question qui a également été posée, il y a certainement un œcuménisme qu'on dit dans la rue. Mon voisin est orthodoxe, mon beau-frère est orthodoxe. Et ce sont des liens qui se font de manière assez intense, assez fraternelle. Les appareils institutionnels sont toujours, vous savez, quand il y a des structures institutionnelles, c'est toujours un peu plus complexe. Mais cependant, oui, il y a des lieux où cela progresse, par exemple en Égypte, où sous le précédent patriarche qu'on appelle le pape orthodoxe, Chenouda, les relations étaient extrêmement difficiles entre catholiques et orthodoxes. Lorsqu'un catholique voulait devenir copte orthodoxe, l'église copte orthodoxe exigeait de le rebaptiser. Ce qui, d'un point de vue œcuménique, est même quelque chose de très lourd. Et maintenant, avec le nouveau patriarche orthodoxe, il y a eu des liens extrêmement étroits. J'ai été témoin, lorsque le nouveau patriarche copte catholique a été installé, que la célébration s'est interrompue. Le patriarche copte orthodoxe est venu embrasser son confrère. Et tous les coptes catholiques étaient en larmes, parce que depuis le début, on leur dit que ce sont des traîtres. Donc il y a eu vraiment des avancées œcuméniques. Il faut bien reconnaître que les événements en Égypte les ont favorisés. Voilà. Je crois qu'il faut que nous aidions effectivement à ce que cette diversité d'églises soit bien une richesse. Oui, c'est vrai, il y a du travail à faire. La situation de Dimy, bien sûr, est lourde, pesante et encore vivace. Même si elle n'est pas toujours dans la loi, elle est cependant dans les faits. Voilà, on ne considère pas les chrétiens d'Orient comme de vrais citoyens de leur pays. Le Daesh a facilité, a souligné qu'ici, s'ils sont là, c'est parce que ce sont des alliés des Occidentaux. Il y a quand même un absence de compréhension de ce que les chrétiens d'Orient étaient là depuis la Pentecôte, donc sans nous, bien avant nous, et encore plus bien avant l'islam. La question de la réciprocité n'est pas forcément d'expression romaine, mais parfois de certains catholiques. Vous savez, il y en a qui veulent en découdre vis-à-vis de l'islam, et parfois c'est tout de même un tout petit peu inquiétant, parce que ça manque des nuances nécessaire, non pas pour être moins clair dans la vérité de nos positions, mais pour être plus pertinent. Rome, à proprement dit, ne parle pas toujours de réciprocité. Et moi, encore moins. Je trouve que l'idée de réciprocité, je te construis une mosquée, si tu me construis une église, ça a un côté, excusez-moi de l'expression, de marchand de tapis, qui ne me plaît pas beaucoup. Non, je crois qu'il faut en venir à des fondamentaux qui sont la liberté de culte, la liberté religieuse. Et c'est au nom de ces libertés que les croyants, s'ils vivent à demeure dans un pays, doivent pouvoir avoir des lieux de culte appropriés. Ces lieux de culte dans le sud de Méditerranée, des lieux de culte chrétiens, existent partout, sauf en Arabie Saoudite. Voilà. Je rappelle que la liberté de culte fait partie de la Charte des Nations Unies des droits fondamentaux. Et donc, je suis un peu peiné quand je vois un tel chef d'État occidental qui va en Arabie Saoudite ne jamais évoquer cet absent de liberté de culte, d'ailleurs non plus cet absent de liberté de droit de l'homme. On aurait pu trouver un moyen d'une expression quand même que ce malheureux qui est condamné à 1000 coups de fouet peut-être aurait pu trouver, être gracié, etc. Ce vide me peine. Voilà. Donc, plutôt que la réciprocité, je dirais, remettons-nous ensemble devant les droits fondamentaux. L'œuvre d'Orient est effectivement une œuvre française, elle date de 150 ans. Il y avait bien au départ l'idée d'aider à l'éducation des populations à travers ces écoles religieuses admirables, souvent animées par des religieuses françaises, qui étaient au service de l'ensemble de la population. Et ce qui m'édifie encore, je vois que ces écoles, ces collèges, ces lycées, ces dispensaires, ces hôpitaux sont au service de tous. Des chrétiens, des catholiques et des orthodoxes, mais aussi des musulmans. Dans la bande de Gaza, il y a 3 écoles religieuses catholiques, il y a peut-être vaguement 1% d'élèves chrétiens, 99% d'élèves musulmans, parce que c'est la démographie aujourd'hui, la bande de Gaza. Donc il y a vraiment un dévouement, je crois, très fort de ces religieuses. Alors, je dois constater les faits en vérité, que l'actuel ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il a suscité la réunion du Conseil de sécurité au mois de mars, puisque la France présidait ce Conseil, a réévoqué l'amitié de la France avec les chrétiens d'Orient. Et je constate, parce que c'est un fait, que dans les années précédentes, cette expression avait été gommée. Voilà. Vous comprenez, Monseigneur, me disait-on, parce que je suis toujours bien reçu au ministère des Affaires étrangères, mais je sens une petite condescendance. Donc on me dit toujours, vous comprenez, Monseigneur. Voilà. Vous comprenez aussi, on va vous expliquer pourquoi il n'y a pas de liberté de culte en Arabie Saoudite. Je vous remercie, j'ai compris. On peut passer à la question suivante. On va vous expliquer, voilà, comme ça. Monseigneur, qu'on ne peut plus dire qu'on est les amis des chrétiens d'Orient, on est simplement les amis des minorités persécutées. Oui, mais il y a une réflexion quand même à mener. Car les chrétiens d'Orient sont nos amis. Voilà. Et je suis désolé, mais c'est pas ma conception de la laïcité quand je vois l'agence de l'enseignement dépendant de l'ambassade de France à Beyrouth qui me dit au nom de la laïcité, on soutient un collège tenu par le Hezbollah qui a quand même tué un certain nombre de nos otages, de nos militaires français, et puis un collège chrétien à Beyrouth. Je me fais une autre idée de ce que pourrait être la laïcité, à laquelle je tiens par ailleurs. Alors oui, je crois qu'il y a bien des liens qui sont renoués, et puisque la question a été posée, je crois quand même qu'il y a aujourd'hui une véritable émotion en France autour des chrétiens d'Orient, dans l'Église catholique, mais aussi au-delà de l'Église catholique, au-delà des frontières de la communauté chrétienne. Je vois bien, et notamment avec des parlementaires de tous les rangs des parlements, qu'il y a une véritable émotion sur la question des chrétiens d'Orient. Donc je ne dirais pas que c'est une question enfouie. Si nous avons primé notre prix littéraire de l'œuvre d'Orient, l'ouvrage du patriarche de Bagdad, sa béatitude Louis-Raphaël Sacco, je lui ai cependant dit, béatitude, votre titre c'est « Ne nous oubliez pas ». Ben, je voulais vous dire, béatitude, on ne vous oublie pas. Écoutez, quand même, presque tous les jours, on parle quand même des chrétiens d'Orient. Bien sûr, je trouve qu'on n'en parle pas assez, bien sûr, je voudrais qu'on agisse davantage. Mais il me semble quand même qu'il y a une véritable émotion, même si elle ne se traduit pas suffisamment en actes. Ces liens peuvent s'appuyer sur l'existence de communautés orientales en France, des communautés orthodoxes, mais également des communautés catholiques. Il y a de nombreuses communautés catholiques en France, notamment à Paris, à Lyon, à Marseille, à Saint-Étienne, dans d'autres endroits également, qui sont parfois des lieux d'immigration de longue date, mais parfois évidemment d'immigration récente, qui se trouvent confrontés à la difficulté de garder leurs racines, de garder leur identité, et en même temps de s'inscrire dans le paysage de l'Église de France et de la société française. Il y a donc là, évidemment, je crois, un équilibre à trouver. En ce qui concerne la situation en Iran, d'un point de vue chrétien, il y a quand même, enfin d'un point de vue catholique, il y a 3 évêques catholiques, un évêque chaldéen, un évêque latin, un évêque arménien. Il y a des communautés orthodoxes. Malgré tout, la situation est dure. Quelqu'un qui était allé était revenu enthousiaste de la situation des chrétiens. Parfois, dans ces pays, ce que les gens disent, c'est pas toujours ce que les gens pensent, car ils sont étroitement surveillés. Voilà. L'évêque chaldéen de Téhéran me disait, mais dès que je rentre en Iran, on me demande qui j'ai vu, qui j'ai rencontré, ce que j'ai dit, ce qu'on m'a dit, etc. Et il sent bien que la police religieuse le surveille de plus en plus étroitement. Donc quand même, la situation est difficile. Quelle est la situation des Juifs d'Iran? Ben là, Naïm, il faut m'aider, il faut que tu me dises, tu sais ça mieux que moi. Mais je pense que la situation est quand même extrêmement difficile. Voilà, de fait, il y a quelques Juifs qui sont encore en Iran, mais je serais plutôt tenté de dire que la situation leur est quand même assez difficile. Peut-être est-ce des personnes qui sont nées en Iran, qui ont vécu en Iran, qui n'ont peut-être pas voulu quitter ce pays. Mais de là à penser que la situation leur est commode, vraiment, je le pense pas. Je sais pas si tu dirais la même chose que moi. Et en ce qui concerne les tensions qu'on a pu voir au Saint-Sépulcre, bon, tension de moine, conflit de moine, avait-il peut-être abusé de quelques flacons, je ne sais pas, tout est possible. Oui, je crois que certains ont un peu beaucoup même montré cela en image, je suis pas sûr que ça avait une importance tout à fait considérable. Mais oui, je crois qu'il y a quand même ici ou là une difficulté de relation sur le terrain entre catholiques et orthodoxes, tension qui me semble être parfois des archaïsmes. Qu'est-ce que vous voulez, ce conflit dont on me parle sans cesse de la date de Pâques à 8 jours près, écoutez, est-ce que vraiment il faut faire une guerre de religion pour déterminer la date de Pâques? Enfin, il y a peut-être des choses plus importantes à voir. Donc il y a des archaïsmes, il y a parfois un clergé de part et d'autre qui a été sous-formé. Il n'était pas longtemps au monastère Sainte-Catherine où on bouchait des pots de confiture avec des documents du VIe siècle. Enfin voilà, c'était plutôt une malformation. Je pense que l'effort de culture des uns et des autres et de pacification par les autorités compétentes me semble quand même de nature à calmer les choses. Moi, je vois quand même, par exemple, entre Rome et Constantinople, pour ne pas dire Istanbul, il y a quand même une communion réelle, me semble-t-il. Et quand le pape François est venu dans la région, il n'y a pas eu de difficultés notables. Donc, je ne montrerai pas trop en avant ces tensions. Maintenant, c'est vrai que l'œcuménisme, je l'ai dit, c'était l'œcuménisme de la rue, de voisinage. C'est aussi l'œcuménisme par la culture. Nous essayons vraiment d'insister sur cette question de la formation des uns et des autres, la formation universitaire, la formation académique, car c'est là que le dialogue peut se faire. Les Dominicains de Bagdad étaient venus me voir pour dire « voilà, nous voudrions créer une académie de sciences humaines à Bagdad ». Quand ils m'ont dit ça, je dis, mais décidément, ces Dominicains, ils ne se rendent pas compte. Bagdad est à feu et à sang, la population n'en peut plus. Ils viennent me parler de créer une académie de sciences humaines. Décidément, ces Dominicains sont des intellectuels en chambre. Mais enfin, j'ai quand même écouté, parce qu'il faut toujours écouter. Ils m'ont dit, nous voudrions créer à Bagdad un lieu qui soit un signe d'espérance, où pourraient se retrouver des doctorants musulmans et chrétiens, qui pourraient ainsi se connaître, se reconnaître et reconstruire ensemble l'âme de l'homme irakien. Voilà. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu important dans ces initiatives. C'est le cas aussi de l'Université Saint-Joseph des Jésuites, c'est encore le cas de la Bibliothèque des Dominicains au Caire, qui sont vraiment des lieux de reconnaissance entre gens de bonne volonté. Cela me semble important. La Russie. Lorsque François Ier s'est autoproclamé protecteur des chrétiens, ce qui était sans doute très généreux de sa part, peut-être quand même, comme je le dis aujourd'hui à mes amis chrétiens, peut-être avait-il quand même quelques idées politiques, c'était la générosité peut-être bien comprise. En tout cas, très vite, le tsar lui a répliqué, écoutez, vous êtes peut-être le protecteur des catholiques, mais le protecteur des orthodoxes, c'est moi. Donc vous voyez que la question de la Russie dans cette région ne date pas d'hier. Et vous voyez aussi, si vous allez à Jérusalem, l'importance, le déploiement du monde russe à Jérusalem, qui est extrêmement important, en particulier parmi les chrétiens. Donc il y a bien une question de la Russie perçue effectivement comme l'ultime défenseur des chrétiens du Moyen-Orient. J'essaye d'être prudent et d'inviter à la prudence mes amis d'Orient. Vous savez les relations étroites qu'il y a entre le pouvoir en Russie et les responsables de l'Église orthodoxe en Russie. Le président Poutine est assez malin pour avoir compris le parti qu'il pouvait tirer du lien orthodoxe entre les croyants du Moyen-Orient et le patriarcat russe. D'autre part, il est facile de stigmatiser l'Occident aux yeux des chrétiens de Russie avec la loi dite pour le mariage pour tous, etc. Et de dire, voyez, cet Occident est matérialiste, cet Occident a tourné le dos aux chrétiens et nous, Russie, la Sainte Russie, est le dernier rempart. Tout ça n'est peut-être pas totalement faux, mais en tout cas pas vraiment vrai, et n'emporte pas de ma part une adhésion. Voilà, j'essaie de dire, tout comme l'Occident, la Russie aussi défend ses intérêts. Voilà. Comme d'ailleurs tout pays défend ses intérêts, parce que parfois mes amis chrétiens d'Orient disent « Ah, maintenant la France ne pense qu'à ses intérêts ». Et je dis « Ah bon, et je suis heureux de savoir que le Liban, c'est les sœurs de la charité et que la... » Voilà. Donc non, chacun pense à ses intérêts, et la Russie comme les autres, et je suis assez perplexe qu'à l'idée de voir la Russie défenseur des chrétiens. Et je vois bien sûr aussi que l'Ukraine a compliqué la situation et que malgré tout, enfin, on a quand même des questions à se poser de l'annexion de la Crimée. C'est pas parce que la Crimée dépendait de la Russie en 1954 que tout d'un coup la Russie peut la reprendre. Est-ce que ça veut dire que toutes les frontières depuis 1954 peuvent être mises en question? Mais en 1954, Alger était encore chef-lieu de département français, et aussi Saïgon, et quelles étaient les frontières, etc., de l'Allemagne à l'époque. Enfin, je veux dire, je crois qu'il faut quand même revenir à des principes clairs, notamment, je crois, de respect des frontières. Après ça, on peut évidemment se poser des questions sur le sort des minorités. Enfin, c'est la question de l'Ukraine qui vient compliquer évidemment les choses. La mondialisation joue un rôle important, cela va de soi, on l'a bien vu par ces jeunes qui savent se servir d'Internet, qui voient donc notre Occident, qui voient nos manières de vivre, qui voient nos idées qui sont diffusées. Et c'est très difficile pour un gouvernement de prétendre neutraliser la communication par Internet. Cette mondialisation est perçue par un danger, comme un danger par ceux qui voudraient se replier sur un islam fondamentaliste. Mais en même temps, je crois que la mondialisation, elle peut être une chance également. Voilà, à nous de savoir comment la gérer et d'être attentif aux images que nous donnons. Un certain nombre de querelles laïcisantes, pour ne pas parler de la RATP, ont voulu donner de l'image de la laïcité une image restrictive, étroite, laïciste. Eh ben, je crois que nous n'aidons pas la laïcité à se faire reconnaître par des pays pour lesquels elle pourrait être utile. Et de fait, se pose la question d'une justice internationale. Je crois que c'est effectivement un vrai problème. Voilà. Donc je sens quand même une certaine empathie en France vis-à-vis des chrétiens d'Orient, mais je sens aussi que nous n'avons plus de politique arabe, pour ne pas parler de l'État d'Israël. Nous manquons, je crois, aujourd'hui d'une véritable politique arabe. J'ai du mal, je vous l'avoue, à comprendre quel est l'intérêt de la France dans son positionnement depuis le début de la crise de Syrie. Voici 4 ans que l'on me dit que le président Assad va partir dans les semaines qui viennent, on ne fait qu'anticiper de quelques jours. Ça fait 4 ans qu'on me dit que la Russie va nous rejoindre, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Ça fait 4 ans qu'on me dit que l'opposition, c'est l'avenir démocratique pluraliste de la Syrie. On n'a jamais pu les mettre autour d'une table pour qu'il y ait un gouvernement alternatif. Et en guise d'opposition, on voit émerger la puissance du Daesh et la puissance d'Al-Qaïda. Excusez-moi, moi qui suis un observateur, malgré toute la sympathie que je peux avoir pour nos diplomates du Quai d'Orsay, je me pose quand même quelques questions. Voilà, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on vient chercher? Où est l'intérêt de la France? Alors on me parle d'oléoduc, de gazoduc, de tout ce que vous voulez. Je n'y crois pas. C'est pas ça l'intérêt de la France. C'est pas non plus de vendre des mitraillettes. On s'en fiche de vendre des mitraillettes. C'est pas ça qui détermine notre économie. Alors quel est l'intérêt de la France? Je n'arrive pas à le comprendre. Et encore une fois, comme je l'ai dit, je regrette amèrement l'abandon, en fait, dans les faits, d'une politique méditerranéenne et de l'Union pour la Méditerranée. Reste le bombardement du Daesh. Bien sûr, bombarder le Daesh ne résoudra rien. Une solution militaire n'est pas une solution en profondeur. Mais je pense quand même, au moins que par l'aviation, puisque c'est le moyen que nous avons à notre disposition, il y a des avancées qu'on aurait dû stopper. Encore une fois, de Deir ez-Zor à Palmyre, il y a 250 km de piste en plein désert, totalement plat. Comment est-ce qu'on ne les a pas stoppées? Pourquoi? Eh bien, j'aimerais le comprendre. Et je voudrais qu'on me l'explique. parce que ça a comme effet de désespérer encore plus les réfugiés qui ne comprennent plus. Et ça commence, vous savez, comme Elorion, les complots, les théories de complot vont vite, et on commence à se dire qu'en réalité, l'Occident veut s'allier avec le Daesh. Alors si c'est ça, c'est quand même une catastrophe, c'est qu'on n'a rien compris. Combien d'exactions le Daesh va devoir faire encore pour qu'on comprenne sa véritable nature? Je ne peux pas croire sérieusement, je le verrai demain à la réunion diplomatique qui se tiendra ici à Paris, quels moyens l'Occident veut engager pour stopper le Daesh. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas agent secret, même si sur ce dernier point, certains en doutent, mais comment fait-on comment se fait-il que Daesh puisse se développer aussi rapidement? Je veux des explications, je les demanderai, je les aurai. Voilà. Alors maintenant, sur les pays qui sont autour de ce conflit, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite n'est donc pas quand même le paradis des droits de l'homme. Est-ce que l'Arabie Saoudite est fondée à s'occuper de la situation de tous ces pays? Parce que peut-être que ça met en cause des sunnites, je ne le crois pas. Que fait la Ligue arabe? Comment comprendre la déliquescence aujourd'hui de la Ligue arabe, qui devrait être en premier plan dans ce conflit? L'Iran non plus ne fait pas partie de des situations exemplaires de droits de l'homme telles que je l'imagine. Mais parlons de la Turquie. Au mois d'août, à l'initiative de la France, une résolution du Conseil de sécurité a menacé de sanctions toute structure qui aiderait au financement du Daesh. Comment comprendre qu'aujourd'hui encore, le Daesh vend par la Turquie du pétrole au point de dégager 1 million d'euros de ressources par jour? Voilà quand même quelque chose qu'on peut stopper. Ça passe par des camions-citernes. Il en faut des centaines de camions-citernes chaque jour. On pourrait le stopper tout de même. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore des munitions, des financements, des armes passent par la Turquie? Comment se fait-il qu'on a vu que tout d'un coup la ville de Gaziantep, j'y suis allé à Gaziantep il y a quelques années, c'est d'un intérêt discutable, et tout d'un coup c'est devenu une destination touristique pour des centaines, voire des milliers de jeunes Européens sans que personne ne s'en inquiète? Il y a tout de même des questions qu'on a envie de se poser. Donc les bombardements du Daesh ne résoudront rien en profondeur. Il faut trouver une perspective pour les populations sunnites d'Irak et de Syrie. Il faut qu'elles aient d'autres possibilités que de faire recours aux cruautés du Daesh. Mais il faut stopper le Daesh, au moins à titre symbolique, parce que les victoires sur la ville de Palmyre, même si c'est effondrant sur le plan culturel, c'est quand même pas non plus d'un intérêt stratégique considérable, mais c'est d'un intérêt symbolique. Vous comprenez, quand le Daesh montre qu'il a toutes les aviations occidentales contre lui, mais qu'il peut continuer à se déployer, ça lui donne une aura considérable. Allah est avec nous, venez nous rejoindre, chers amis d'Europe. Voilà, Poutine, donc défenseur des chrétiens d'Orient, je crois avoir dit tout ce que j'en pensais. La démocratie est-elle adaptée au monde musulman? Sans doute pas spontanément, encore que on peut trouver peut-être des éléments autour d'une certaine communauté des croyants qui pouvait peut-être dans l'idéal qui n'a peut-être jamais existé, décider ensemble des décisions de la communauté. Mais vous savez, la démocratie, vous le savez bien, la démocratie n'est jamais facile pour une religion révélée. Car il y a un peu... Si. Monsieur le grand rabbin. c'est jamais... En tout cas, ça n'a pas été simple pour le monde chrétien non plus. Je crois que c'est quand même un combat à mener. Je crois qu'il y a tout de même des musulmans qui sont réfléchis, qui peuvent faire des avancées. Même si j'ai critiqué la constitution tunisienne, il y a eu une avancée. Voilà. C'est un peu à nous aussi de le manifester. En ce qui concerne l'UNESCO, oui, c'est bien que ça ait été fait à l'UNESCO qui me choque profondément. Que des hindous, que des musulmans, peut-être des chrétiens, je ne sais pas, des juifs, je ne sais pas non plus, proclament une déclaration des droits de l'homme telle que leur religion les fait se comprendre, c'est très bien. Que dans une agence des Nations Unies, on autoproclame une déclaration islamique des droits de l'homme qui forcément contrevient à notre déclaration universelle des droits de l'homme, me semble en effet profondément choquant. Je comprendrais qu'on nous dise que la déclaration universelle des droits de l'homme est d'inspiration occidentale, je vous l'ai dit, je n'ose pas dire chrétienne, enfin un peu quand même, enfin bref, c'est pas tout à fait l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, mais travaillons cette déclaration universelle des droits de l'homme. Que dans une agence des Nations Unies, en plus de la culture, de l'éducation et de la science, on tolère une déclaration islamique des droits de l'homme qui contredit la déclaration universelle des droits de l'homme pour soumettre les droits de l'homme à la charia, dont tout le monde sait que c'est là aussi une référence en matière des droits de l'homme, ça a quelque chose tout de même, je trouve, de profondément choquant. Et je dirais de profondément lâche. Voilà, nous aurions dû dire, oui, acceptons de retravailler notre déclaration des droits de l'homme et voyons ce que nous pouvons faire. Mais ça, c'est un éclatement, je crois, pour le coup, un effet pervers d'une certaine mondialisation, et je crois que c'est une lâcheté sur nos principes. Nous avons, je crois, besoin de manifester aux musulmans le respect. Nous devons les respecter. Un musulman en prière m'impressionne. Voilà, etc., etc. Il y a un respect à avoir pour les musulmans comme pour tout homme, mais ça ne doit pas être de la faiblesse. Et parfois, j'ai l'impression que nous manifestons du mépris et en même temps de la faiblesse sur nos propres principes. Je pense que ce n'est pas comme ça que nous pouvons construire quelque chose avec eux.